Vous êtes sur RTL. Ça. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et on va débuter avec ce dossier délicat des violences conjugales. Vous le savez, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé notamment que les plaintes pour violences conjugales devaient être traitées en priorité. On va en discuter avec vous. Nous sommes en ligne avec Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Bénédicte.
Vous nous appelez du Nord.
Oui.
De Rache, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et vous êtes policier, fonctionnaire de police.
Oui,
est-ce,
tout à fait.
Est-ce que justement, vous qui êtes dans la partie, c'est facile, est-ce que vous le voyez, est-ce que c'est toujours aussi difficile pour les victimes de violences conjugales de porter plainte?
Oui, complètement, oui, c'est très difficile. D'ailleurs, c'est très souvent le cas. C'est notre quotidien, les violences conjugales, on intervient au quotidien, parfois plusieurs fois par jour, pour différents cas, et très régulièrement, les dames, les victimes ne déposent pas plainte. Parfois, elles déposent plainte après qu'on ait expliqué, mais le lendemain ou le surlendemain, elles retirent leur plainte, malheureusement.
Pour l'instant, ce sont souvent des mains courantes, c'est ça?
Des mains courantes, oui, régulièrement, des mains courantes, mais des mains courantes à répétition, parce que les auteurs de violences sont souvent des récidivistes, sont des violences qui perdurent dans le temps. Ce sont des femmes victimes donc qui restent sous le joug de leur agresseur pendant des années, Ouais. Elles sont maintenues sous le joug dans la terreur en fait. Et donc elles ont vraiment très très peur de déposer plainte, et elles ont peur de se retrouver démunies, que leur compagnon aille en prison et voilà.
Et qu'il n'y ait plus de revenus pour assurer notamment la subsistance des enfants. Restez avec nous, Olivier. On va accueillir ensemble Catherine. Bonjour, Catherine.
Bonjour, Olivier. Bonjour aux auditeurs.
Moi, vous nous appelez de l'Essonne. Vous êtes aide-soignante.
Oui,
et vous voulez donc témoigner. Allez-y.
Oui, moi, ça fait 10 ans, maintenant, une dizaine d'années, je suis partie parce que j'étais maltraitée. Bon, il faut déjà avoir le courage de partir.
Bien sûr, c'est ce qu'on disait à l'instant. Pas donné à tout le monde. Oui, bien sûr.
Mais effectivement, j'ai écouté Gérard Darmanin, ce qu'il met en place, c'est bien. Mais je pense qu'il faudrait déjà avoir en face de nous des personnes formées pour savoir écouter. Parce qu'effectivement, quand on arrive devant un policier, déjà c'est un homme, donc on n'est pas tranquille. Parce qu'on se dit, bon, la dernière femme qui a porté plainte, finalement, il s'est trouvé en face d'un policier qui tapait sa femme.
À Mérignac, c'est ça, on parle. C'est un cas particulier, c'est pas une généralité.
C'est un cas particulier, ouais. Mais ça arrive. En attendant, elle est morte.
Mm-hmm. Il y a toujours cette peur. Alors justement, Gérald Darmanin vient d'annoncer un officier spécifiquement formé pour recevoir ces femmes.
Oui, il faut, parce qu'elles ont peur. Et si on ne les met pas en confiance... Si on ne sait pas dire, moi j'ai eu de la chance, je suis tombée sur quelqu'un de super compréhensif et il était arrivé à me décider à laisser ma plainte et à aider ces femmes à rebondir, à leur trouver, parce que c'est bien beau de porter plainte, mais après il faut bien aller quelque part.
Oui.
Donc c'est tout ça qu'il y a à mettre derrière. C'est pas seulement que porter plainte, c'est qu'après il y a des tas de choses à mettre derrière et ces choses derrière, elles ne sont pas mises en place.
D'accord. On va reprendre Olivier, notre fonctionnaire de police, s'il est encore là. Est-ce que vous êtes là, Olivier ?
Oui.
Justement, je voulais vous demander si vous ou vos collègues, vous avez suivi une formation.
Alors, non. Nous n'avons pas suivi... Enfin, nous, moi, je suis policier de terrain, je n'ai pas suivi de formation. Mm-hmm. Il m'arrive de temps en temps de prendre des plaintes. Pour autant, là où j'exerce, nous avons déjà... des gens spécialisés dans la prise de plainte et notamment prise de plainte de violence conjugale. Donc, dans un premier temps. Et ensuite, le dossier est repris par des spécialistes.
D'accord. Et ce que Catherine disait aussi, c'est... Est-ce que vous le sentez un peu, l'appréhension de parler à un policier homme ?
Oui, parfois, oui. Oui, ça arrive. Alors, déjà, nous, en tant que primo intervenant, on voit bien que les femmes ont parfois du mal à nous donner des détails, etc., sur les violences subies. Donc, nous, on dit qu'on a l'habitude, etc., on essaie de les orienter. Ensuite, on leur donne la marche à suivre et on essaye de donner une réponse immédiate à leur
demande, à leur peur. Reste avec nous, il y a un deuxième Olivier qui nous a téléphoné au 3210. Vous nous appelez de Vendée. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Que pensez-vous des annonces de Gérald Darmanin ce matin dans le quotidien Le Parisien ?
Bah, écoutez, pour moi, les annonces, déjà, c'est bien beau d'en faire, des annonces. Mais pour moi, qu'il applique ce qu'il disait déjà avant, les bracelets électroniques, toutes ces choses-là. Il faut commencer par ça. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Il faut déjà mettre en place ce qui devrait déjà être en place. Ça ne sert à rien. Par contre, mettre quelqu'un vraiment dédié aux violences faites aux femmes, oui, ça c'est très bien. Mais une seule personne, ce ne sera pas suffisant.
Catherine, vous êtes d'accord avec ce que dit Olivier ? Une seule personne, ce n'est pas suffisant.
Il faut davantage de personnel. Une seule personne, c'est pas suffisant. Et puis, comme disait le premier Olivier, il faut que ce soit peut-être que parler à des femmes, ce sera peut-être plus facile. Mais c'est vrai qu'une personne dans un commissariat, non, ça suffit pas. Parce que c'est des gens qu'il faut mettre en confiance. Et puis, il n'y a pas de suivi. Et puis, pour le mec qui fait ça, il sort. Et puis, le résultat, c'est qu'après, sa femme, elle est morte. Quoi. Voilà. Donc, c'est vrai de mettre des choses en place. Oui. Mais déjà, la première plainte, on ne fait rien. On dit, on va surveiller. Voilà.
Bon, on vous remercie beaucoup, Catherine, de votre témoignage. J'imagine que même 10 ans après, ce n'est pas toujours facile de parler de tout ça. Merci beaucoup d'être intervenu depuis l'Essonne. Et puis Olivier, les deux Olivier, merci beaucoup. On marque une petite pause et puis on va changer de sujet. On va parler un peu des motos et des remontes de fil, là, tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Bénédicte Tassard.
Bénédicte Tassard.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h18 sur RTL. Les nouvelles règles de circulation pour les deux roues entrent en vigueur aujourd'hui. C'est valable dans 21 départements parce que c'est encore une expérimentation. Sur 3 ans, les motards peuvent à nouveau circuler entre les files de voitures à condition de ne dépasser de 30 km/h le véhicule qu'ils doublent. Alors, est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous rassure ou pas? Motards, automobilistes, on vous attend au 3210 et nous sommes avec Thierry. Bonjour Thierry.
Bonjour Bénédicte.
Vous nous appelez de Charente?
Exactement, du côté de la Rochefoucauld.
Vous êtes automobiliste ou motard?
Les deux.
Ah, les deux. Alors que pensez-vous de cette nouvelle expérimentation, hein, parce que ce n'est pas la première fois qu'on essaye.
C'est un retour en arrière. Mm-hmm. C'est très bien. C'est très bien. Pour ne pas que ce soit une expérimentation, il faut que ce soit légiféré. Parce qu'en fait,
vous êtes pour que les motos puissent doubler.
Alors déjà, je vais me permettre de vous rectifier.
Allez-y.
C'est pas les motos, c'est les deux roues
les
motorisées.
Deux roues. Vous avez raison.
Parce que quand vous allez, vous connaissez certainement mieux que moi Paris, pour y être allé en moto, autant vous dire que j'étais pas tranquille sur le périphérique, par exemple. Mm-hmm. Parce que je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais je fais attention et j'ai remonté la file de voitures tranquillement et à la vitesse modérée. Et là, vous avez des scooters qui vous passent à gauche, à droite. C'est un peu la jungle. Mm-hmm. Et à cause de ça, j'ai peur que la sanction tombe et que de nouveau, on nous l'interdise. Ou à moins qu'ils interdisent dans certains secteurs. Alors qu'on est beaucoup plus en sécurité à remonter une file tranquillement à moto, à vitesse adéquate, c'est pas le terme, mais bon, adéquate.
C'est-à-dire à vitesse adéquate.
Tranquille. Moi, je remonte, quand je remonte, je suis en première, en seconde, je suis à 20-30 km/h. Je remonte une file, je la double pas, je la remonte tranquillement afin de pouvoir m'arrêter s'il y a une voiture qui déboîte en clignotant, s'il y a une portière qui s'ouvre.
Donc c'est véritablement, excusez-moi Thierry, c'est véritablement dans les bouchons.
Oui, c'est véritablement dans les bouchons. Oui, parce qu'à partir du moment où un véhicule est en circulation, on ne fait plus de la remontée de file, on fait du dépassement. Mmh. Et dépasser entre deux files, pour moi, ce n'est pas autorisé. Alors, parce que dépasser un véhicule de 30 km/h, une voiture qui roule à 30, ça veut dire que la moto est à 60, il vous faut une sacrée distance de sécurité pour vous arrêter. Et s'il y a une voiture qui change de file, et ben, comme on le voit tous les jours, il n'y aura pas moyen de s'arrêter. Donc, c'est une excellente idée. Ça se fait Alors, j'allais dire le vrai motard, oui, je vais appeler ça comme ça. Mm-hmm. Parce qu'en fait, c'est un peu le cas des inconnus, il y a le vrai motard, le vrai motard. Il y a celui
Mais vous, vous êtes un vrai motard. Hein.
Non, j'ai pas une prétention d'être meilleur qu'un autre, mais je veux dire, on fait de la moto par tout temps, de la balade, on fait de la ville, de la campagne et tout. Alors que dans les grandes villes, souvent, je vais dire que 90% de ceux qui sont en deux roues, ils le prennent pour éviter les bouchons et juste pour aller du domicile au travail. Mais vous les croiserez jamais en balade le week-end.
Alors Thierry, vous allez discuter avec Christophe qui nous appelle du Pas-de-Calais. Bonjour Christophe.
Bonjour Bénédicte.
Alors, quel est votre avis sur ce fameux dossier de remont de fil?
Moi, je ne suis pas motard, mais c'est vrai que cet été, j'ai quand même eu l'occasion de me faire doubler par beaucoup de motards. Mmh. Et bon, je ne suis pas trop pour l'interdiction parce que dans l'ensemble, ils sont prudents. Bon, il y a peut-être sur un changement de fil où il faut faire attention. Moi, je sais que dès que j'arrive sur la région parisienne, dès que j'emprunte le périph, je surveille systématiquement les rétros parce que je sais que ça va débouler.
Vous faites comme Thierry, là.
Exactement. Exactement. Et puis, c'est de la bonne intelligence. Je pense qu'il faut les laisser travailler parce que je pense qu'il y en a qui travaillent, qui sont sur leur moto et qui travaillent. Faudrait-il peut-être annoncer, parce que c'est vrai que l'été, les touristes arrivent en masse sur les périphes, ouais. Et eux ne sont pas forcément au courant des pratiques des motards parisiens, entre autres, mais dans les autres périphéries.
C'est valable sur le périphérique de Lyon.
Exactement. Et peut-être de mettre un système de panneaux en indiquant que, attention, les motards vont forcément passer entre les voitures. Après, je vous dis, c'est vraiment de la bonne intelligence. Moi, je sais que dès que j'arrive sur un périph, je le surveille parce que le premier que je vois arriver, il me surprend et je me dis, oh là, attention, ça va commencer.
Il faut davantage de prévention, il faut davantage de signalisation.
Oui, je pense. Ouais. À mon avis, c'est ce qu'il faudrait faire.
Thierry ?
Oui, il faut aussi que les motards et les deux roues se responsabilisent. Et à partir du moment où ça roule, si par exemple ça roule à 60, ça ne sert à rien d'essayer d'aller doubler les voitures à 90. Je veux dire, ça roule. Il faut qu'aussi la route, elle se partage. C'est-à-dire que nous, deux roues, on doit aussi prendre aussi patience et pas toujours vouloir rouler plus vite que les autres. C'est-à-dire, à partir du moment où le flot de véhicules roule, eh ben, on roule avec. On n'a pas à remonter en interfil. C'est là où ça devient dangereux. Parce qu'à partir du moment où les véhicules sont en mouvement, vous avez systématiquement des changements de fil de l'automobiliste. Il a l'impression que celle de gauche va plus vite, ou la file de droite va plus vite. Et c'est là où les drames arrivent, parce que la voiture est à 60, le motard arrive à 80 derrière, et voilà, et c'est l'accident.
Christophe ?
Ouais, tout à fait. Voilà, c'est exactement, je suis d'accord avec
vous. Vous êtes d'accord, tous les deux. Merci beaucoup Thierry et Christophe d'avoir appelé RTL au 3210, et puis vous n'hésitez pas à nous rappeler quand vous le souhaitez. On va parler un petit peu des pandas, si vous le voulez bien. La naissance de deux petits pandas, alors je sais pas comment on dit, des femelles pandas pour des filles, des jumelles qui sont arrivées la nuit dernière. Nous sommes avec Marilyn. Bonjour Marilyn.
Oui, bonjour à tout le monde.
Bonjour à vous. C'est vrai, c'est une bonne nouvelle?
Mais oui, c'est une bonne nouvelle parce que, écoutez, en ce moment, je trouve que la moindre bonne nouvelle, elle doit être amplifiée et celle-ci est magnifique.
Bien sûr.
Magnifique parce que ça représente tellement d'espoir pour toute une équipe. Autour de cette nouvelle, le zoo de Beauval vient de l'annoncer sur son site et tout. C'est vraiment une belle nouvelle pour tout le monde.
Et vous les avez vues, elles sont toutes petites. Hein.
Oui, elles sont toutes petites.
Vous êtes déjà allé voir les pandas à Beauval?
Alors, écoutez, malheureusement, bon, moi, je suis retraitée, j'habite dans le Pas-de-Calais, c'est un peu loin.
C'est un peu loin, du Pas-de-Calais, oui.
Oui, merci aux réseaux sociaux, merci à vous de nous faire partager... mais je regarde souvent, dès qu'il y a un reportage sur toutes ces personnes qui s'occupent de préserver les animaux comme ça, etc.
Mais c'est vrai que tous les Français les ont adoptés, hein, les pandas, même ceux qui ne vont pas à Beauval.
Mais oui. Alors, bien sûr, quand on regarde, il y a quand même des détracteurs, des gens qui sont toujours un petit peu anti-tout et qui vont penser que ces animaux naissent...
en détention.
Etc. Mmh. Donc, c'est très, très beau. C'est très, très, très bien. Moi, je suis très contente. Je leur souhaite une longue et belle vie. Et puis, tous les rêves des enfants avec... Moi, j'ai des petits-enfants qui ont chacun leur panda, etc. Et qui connaissent l'histoire de cela et de tous les animaux. Parce qu'on est témoin aussi de naissance récemment d'un petit rhinocéros, d'une girafe, etc., etc. Donc, c'est vraiment faire connaître et partager ce bonheur. Et moi, je suis vraiment ravie.
Et là, vous allez avoir de nouveaux petits dessins de pandas de la part des petits-enfants. Hein. Là, je suppose que ça va...
Mais oui, parce que franchement, ils choisissent les prénoms. Il y en a qui disent c'est l'année déesse, etc. Mais ça fait... De toute façon, tout est moyen de communication. Et ce moyen-là, ce sujet... est vraiment très, très, très beau à partager avec les grands, les petits.
On va suivre ça ensemble. Bien sûr.
Vous savez, j'ai ma maman qui habite chez moi, qui a 88 ans, qui est dans son lit, etc. Et ce matin, quand je l'ai réveillée, je lui ai dit, maman,
les pandas sont nés, elle dit ah bon, ça s'est bien passé. Vous voyez, 88 ans,
mais bien
totalement
sûr,
paralysé, etc. Et aujourd'hui, ça lui a fait une bulle d'air. Donc, laissez-nous rêver. Laissez-nous,
merci.
Et bravo, bravo d'en parler à vous.
Merci beaucoup, Marilyn. Et puis, on embrasse très fort votre maman aussi. On va changer de sujet parce qu'il y a aussi cette vidéo d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Le président de la République veut inciter à la vaccination. Il veut répondre aux sceptiques de la vaccination. Nous sommes en ligne avec Pierre qui nous appelle de Besançon. Bonjour Pierre.
Bonjour madame.
Alors je précise que vous avez 19 ans, vous êtes jeune. Et je vais vous demander justement, est-ce que vous pensez que c'est efficace? Qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo?
Alors, j'en pense en soi que déjà, je suis pour la vaccination. Mmh. Pour la vaccination, je suis convaincu que c'est un bien pour nous sortir de la crise, puisque le gouvernement, j'allais dire, décide que c'est le vaccin qui nous sortira de la crise et qu'il décide que c'est vaccin ou restriction. Donc, dans cette perspective, évidemment, c'est mieux de choisir le vaccin. Maintenant, je pense que,
allez-y.
Il serait intéressant que Macron puisse, j'allais dire, faire ce qu'il dit, plus ou moins. Enfin, disons qu'il montre aux jeunes que leur vaccination n'a pas été vaine et qu'effectivement, ils puissent retrouver les libertés ou activités du monde d'avant, ou en tout cas qui s'en rapprochent le plus.
C'est-à-dire que vous voudriez que les taux se desserrent un peu pour les vacciner, un peu plus.
Bien sûr.
C'est ça?
Bah, bien sûr.
C'est-à-dire les boîtes de nuit, les rêves parties, on vient d'en parler dans le journal.
Bah, bien sûr, enfin, c'est-à-dire que c'est ce que nous vend, c'est ce qui nous est vendu, c'est-à-dire c'est le vaccin pour sortir de la crise et retrouver une vie normale. C'est le but du pass sanitaire. Pour permettre justement de retrouver, enfin, donc, entre vaccinés plus ou moins. Alors après, montrer le pass sanitaire pour montrer qu'on est vacciné, pour avoir le droit d'entrer quelque part. Je trouve que c'est un peu discriminatoire contre des non-vaccinés qui ont fait un choix qui n'est pas illégal.
Alors, je précise quand même que le pass sanitaire, ce n'est pas seulement la vaccination. Ça peut être aussi le test PCR.
Non, bien sûr, mais après, ça va, le test PCR va devenir payant, ainsi de suite.
Ça, on verra.
Je trouve que le pass sanitaire est un peu discriminatoire contre les non-vaccinés parce que ce n'est pas illégal de ne pas être vacciné. Et je pense que la vaccination obligatoire serait peut-être plus claire. Mais en tout cas, l'incitation à la vaccination, c'est quelque chose de positif. Maintenant, c'est vrai que dans la perspective de la présidentielle, le président n'aurait pas intérêt à... pas à mentir, mais disons, il aurait quand même...
Mais ce n'est pas simplement de la communication, selon vous, ce n'est pas simplement de la communication.
Bah, c'est-à-dire, ça sert à inciter à la vaccination, justement, pour permettre une sortie de crise. Je pense que c'est une bonne intention de vouloir vacciner la plus grande proportion possible de la population, mais la stratégie serait bonne si le président, faisait effectivement desserrer les taux encore plus pour les vacciner et fasse comprendre aux jeunes que leur vaccination n'est pas vaine. Et c'est pour ça, je pense qu'à 9 mois de la présidentielle, un retour des restrictions ou leur maintien, même d'accord, contre les vaccinés, pourrait être mal vu.
Merci beaucoup Pierre de nous avoir téléphoné au 3210. Merci à tous. On se retrouve demain, une heure ensemble, de 12h30 à 13h30. Et dans un instant, eh bien, c'est Éric Jean-Jean qui va prendre l'antenne avec Bonus Track.